VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi Dorcel et Anastasie Tudiech, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du mercredi 4 janvier 2017. Bonne année Anastasie, au sommaire ce soir.
Merci Gabi, bonne année à vous aussi. Tension en Gambie. Des partisans d'Adama Barrow ont été brièvement interpellés et le chef de la commission électorale s'est réfugié au Sénégal.
Affaire d'Abiyen Malaki, le procès de Théodorine Obiang à Paris, reporté au mois de juin.
Le président Obama exhorte les législateurs à préserver sa réforme de l'assurance maladie, l'Obamacare.
Perspective 2017, aujourd'hui le Togo et le Mali.
Haïti a enfin un nouveau président élu. La victoire au premier tour de Jovenel Moïse a été confirmée hier après la période de contestation.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal.
Commençons en Gambie, donc, où la peur règne. Le chef de la commission électorale a fui le pays. Il avait proclamé la victoire d'Adama Barrow contre Yahya Jammeh à la présidentielle de décembre et aurait reçu des menaces. Pendant ce temps, les services de renseignement sont à l'affût des membres de l'opposition. Salwa Jafari.
Alors que le pays est toujours en proie à l'incertitude, Aliou Momar Ndiaye a quitté la Gambie pour le Sénégal, selon des membres de sa famille.
I hereby declare Adama Barrow duly elected to serve as president of the Republic of the Gambia.
C'était lui qui, à la surprise générale, avait le 2 décembre dernier proclamé la victoire d'Adama Barrow. Momar Ndiaye avait jusque-là été considéré comme un homme de Jammeh. Les autorités sénégalaises n'ont pas commenté sur sa présence sur leur territoire. Pendant ce temps, au moins 5 sympathisants de l'opposition ont été brièvement détenus par les services du renseignement pour avoir porté ou vendu des t-shirts prônant un changement de régime. La Gambie est en proie à une crise née de l'élection présidentielle du 1er décembre. Le scrutin a été officiellement remporté par l'opposant Adama Barrow face à Yahya Jammeh, au pouvoir depuis plus de 22 ans, qui conteste sa défaite après l'avoir dans un premier temps reconnu.
Toujours dans l'actualité africaine, 2 casques bleus marocains de la mission de l'ONU en RCA et la MINUSCA ont été tués et un autre grièvement blessé hier dans l'est de la Centrafrique. Leur convoi a été pris à partie par des hommes armés non identifiés, nous dit Freeman Sipila.
L'attaque a eu lieu hier mardi entre Zemio et Mboki, un axe sur lequel opèrent régulièrement des éléments de l'armée de résistance du Seigneur et des coupeurs de route. Les soldats onusiens ont été surpris par des tirs des assaillants alors qu'ils se rendaient à Obo, la grande ville du Ombomou, pour escorter des véhicules de ravitaillement de la MINUSCA. On ignore encore les auteurs de cette attaque, moins encore les raisons. À Bangui, la MINUSCA condamne avec fermeté cette agression qu'elle considère comme un crime. Elle promet par ailleurs de traquer les responsables. Ikavi Betanou, porte-parole intérimaire de l'institution.
La MINUSCA condamne dans les termes les plus forts ce nouvel acte ignoble et injustifié. Et rappelle que porter atteinte à la vie d'un casque bleu peut être considéré comme un crime de guerre et passible de poursuites judiciaires. Tout sera mis en œuvre pour traquer et mettre hors d'état des murs les auteurs de ces crimes afin qu'ils soient traduits en justice.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Plus de 80 migrants sénégalais pour la plupart ont été secourus aujourd'hui sur une plage libyenne où ils avaient échoué en croyant être arrivés en Italie après 3 jours en mer. C'est ce que rapportent des rescapés et le Croissant Rouge libyen. Selon des témoins, plusieurs migrants ont sauté de leur bateau pour rejoindre la plage, mais ne sachant pas nager, se sont noyés. En dépit du froid, du mauvais temps et de fortes rafales de vent ces derniers jours, les départs depuis les côtes libyennes ne semblent pas avoir faibli.
Au Nigeria, un chœur composé d'anciens dirigeants a choisi de célébrer 2017 en entonnant un hymne à la paix pour leur pays troublé. Les anciens leaders militaires Olusegun Obasanjo et Yakubu Gowon en sont membres, tout comme l'actuel vice-président Yemi Osinbajo. L'initiative leur a valu des railleries dans les médias sociaux, certains internautes les ayant désignés comme les responsables précisément des difficultés que traverse le Nigeria. Suite à ces accusations, certains des anciens dirigeants ont fait acte de contrition, reconnaissant leur implication dans la déstabilisation de leur pays.
En Tunisie, le ministère de l'Intérieur a fait état aujourd'hui du démantèlement hier près de Sousse, dans l'est du pays, d'une cellule terroriste de 13 membres. Le groupe tenait des réunions secrètes dans une mosquée et enrôlait des jeunes au profit de groupes djihadistes. Il s'agit de la 7e annonce de ce type par les autorités en moins d'une semaine. Le débat est intense en Tunisie autour de la menace djihadiste. 70 djihadistes présumés auraient été arrêtés en Tunisie depuis le 25 décembre.
En Égypte, un policier a été tué et un autre grièvement blessé hier par des inconnus en moto qui ont ouvert le feu sur leur véhicule au sud du Caire. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP un responsable de la sécurité. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les attaques menées par des hommes armés à moto sont fréquentes au Caire et dans les villes du delta du Nil.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, la justice française a accepté ce mercredi de reporter au mois de juin le procès à Paris de Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale et vice-président de son pays. Monsieur Obiang est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le premier procès dans l'affaire des biens mal acquis se tiendra du 19 juin au 6 juillet. 9 audiences sont prévues devant le tribunal correctionnel de Paris. Théodorin Obiang était absent lundi à l'ouverture des débats, mais ses avocats ont demandé le renvoi du procès. Promu fin juin vice-président par son père Théodoro Obiang Nguema, le prévenu âgé de 47 ans est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelque 50 millions d'euros, mais conteste les infractions qui lui sont reprochées. Saisie par la Guinée équatoriale qui conteste les poursuites françaises contre son vice-président, la Cour internationale de justice a rendu le 7 décembre dernier une ordonnance à l'issue de laquelle la France doit assurer, pour l'instant, l'inviolabilité d'un luxueux immeuble saisi par la justice française. Malabo présente cet immeuble dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris comme des locaux diplomatiques. Au terme de l'instruction, les juges ont estimé que le patrimoine de Théodorin Obiang, évalué à plus d'une centaine de millions d'euros, ne pouvait avoir été financé par les seuls revenus officiels, mais était issu des détournements de fonds publics.
À quelques jours de la fin de son mandat, Barack Obama joue son vato pour sauver son programme de santé, connu sous le nom d'Obamacare, que les républicains cherchent à abroger. Le président américain a rencontré les parlementaires démocrates au Congrès pour définir avec eux comment barrer la route aux tentatives des républicains. Abdourahmane Dia.
Les conservateurs qui contrôlent les deux chambres du Parlement n'ont pas perdu du temps pour déclencher la procédure qui pourrait aboutir à l'annulation du programme de santé globale, l'une des réalisations phares de l'administration Obama. Mais certains sénateurs républicains comme John McCain ont mis en garde leurs collègues contre une précipitation dans la mise en œuvre, surtout en l'absence d'un programme qui remplacerait Obamacare, car des millions d'Américains pourraient se retrouver sans assurance. Donc le président sortant et les démocrates pourraient même avoir des alliés au sein de la famille républicaine. Mais Donald Trump et la direction du parti républicain n'ont jamais caché leur intention de s'attaquer à Obamacare. Le président élu a, dans un tweet, demandé à ses camarades républicains de ne pas baisser la garde face à la pression des démocrates. Alors que Barack Obama rencontrait les élus démocrates, Mike Pence, le prochain vice-président, s'est de son côté réuni avec les républicains au Capitole, le siège du Congrès, pour discuter de la meilleure stratégie pour enterrer Obamacare. Il a déclaré que l'objectif, c'est de le remplacer par un système basé sur le marché de l'offre et de la demande. Une année 2017 qui démarre déjà dans la confrontation à Washington en attendant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Et parlant de Donald Trump, le prochain locataire du bureau ovale de la Maison-Blanche a de nouveau désavoué les services américains de renseignement qui ont conclu à une interférence de la Russie dans la présidentielle. Donald Trump fait foi aux déclarations de Julian Assange, fondateur du site Wikileaks, affirmant que Moscou n'est pas à l'origine des piratages informatiques dans la campagne électorale. Par contre, le secteur de renseignement et du renseignement et des entreprises privées de sécurité informatique soutiennent la thèse du piratage en provenance de Moscou.
Un porte-parole militaire des États-Unis à Bagdad a affirmé que l'armée américaine a mené l'attaque aérienne qui a tué hier plusieurs dirigeants de l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, le front Fateh al-Sham. Survenu dans la province d'Idleb, le bombardement a tué au moins 25 membres du front, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, une frappe effectuée le 1er janvier a éliminé 3 chefs de la même organisation, apprenant de même source. L'ex-branche d'Al-Qaïda est l'un des groupes non couverts par le cessez-le-feu en vigueur en Syrie.
Près de 6 000 ouvriers chinois doivent se rendre en Israël durant la première moitié de l'année 2017 pour aider l'État hébreu dans le secteur de la construction. Le pays fait face à une crise immobilière depuis plus de 8 ans, selon des responsables israéliens cités par l'AFP. Conséquence, hausse du coût de la vie et troubles sociaux, comme par exemple les manifestations de 2011. L'accord entre Pékin et Tel Aviv est prévu fin février.
Un tribunal israélien a condamné ce mercredi à 7 mois de prison un employé palestinien des Nations Unies accusé d'avoir aidé le mouvement islamiste Hamas qui gouverne la bande de Gaza, rapporte l'AFP citant son avocate. L'arrestation en juillet de Wahid Borch, un ingénieur travaillant pour le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, avait fait grand bruit. Il a été reconnu coupable aujourd'hui d'avoir involontairement rendu service à une organisation illégale, en l'occurrence le Hamas, qu'Israël considère comme une organisation terroriste, a dit son avocate Léa Tzemel.
Un train de banlieue a déraillé mercredi matin dans le quartier new-yorkais de Brooklyn,
faisant 76 blessés légers. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco et ce soir, elle est signée John Lyndon.
Les députés togolais ont adopté le budget national pour 2017 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1227,4 milliards de francs CFA. On note dans ce budget une progression de plus de 22% par rapport au budget initial de 2016. Le taux de croissance prévisionnel en 2017 est de 5%. Le taux d'inflation, lui, est estimé à 2,5% du PIB. Au Cameroun, le rapport 2014 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, publié mardi par le ministère des Finances, indique que le trésor public camerounais a collecté au titre de recettes pour les industries extractives et du transport pétrolier une enveloppe de 842,37 milliards de francs CFA. Selon le même rapport, cette somme a contribué à hauteur de 26,94% dans le budget de l'État et à hauteur de 0,14% à la création d'emplois au Cameroun. La fondation du banquier nigérien Tony Elumelu a annoncé le lancement de la troisième édition de son programme annuel d'entrepreneuriat africain. 1000 entrepreneurs seront sélectionnés et bénéficieront d'une formation intensive pendant 12 semaines, d'un mentorat et d'un financement à hauteur de 10 000 $.
Voici pour les sports, l'info sur les stades. Nicolas Pineau est en studio. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, qui sera joueur de football africain de l'année 2016?
La cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football se déroule demain. Trois finalistes, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du Borussia Dortmund, tenant du titre et favori à sa propre succession. Face à lui, l'Algérien Riyad Mahrez, qui a réalisé une saison 2015-2016 phénoménale en remportant le championnat d'Angleterre avec Leicester. Il a d'ailleurs été nommé meilleur joueur de Premier League. Enfin, le Sénégalais Sadio Mané, auteur d'une excellente saison avec Southampton. Le Sénégalais a depuis été transféré à Liverpool contre 40 millions d'euros environ, une somme record pour un footballeur africain.
Transfert en Angleterre pour un joueur béninois.
L'attaquant international béninois d'Aston Villa, Rudy Gested, s'est engagé jusqu'en 2020 avec Middlesbrough. Selon la presse britannique, le montant du transfert de l'ancien international français des moins de 19 ans est de 7 millions d'euros.
On connaît la liste des 23 Marocains retenus pour disputer la CAN au Gabon.
Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a dévoilé sa liste. A noté les absences de Younes Belhanda et d'Oussama Tanane, contraints de déclarer forfait sur blessure. Belhanda, le milieu offensif de Nice, auteur d'une première partie de saison remarquable. Pour son retour en Ligue 1, a été victime d'une fracture à un orteil juste avant la trêve. Quant à Tanane, il souffre d'une pubalgie.
Et parlons de l'élimination de Serena Williams au tournoi d'Auckland.
L'américaine numéro 2 mondiale a été éliminée au deuxième tour du tournoi d'Auckland par sa compatriote Madison Brangle, 6-4, 6-7, 6-4. C'est une mauvaise nouvelle pour le clan Williams après le forfait de la sœur Vénus en raison d'une douleur au bras droit. On rappelle que Serena Williams était tête de série numéro 1, c'était son retour sur les courts depuis sa demi-finale perdue à l'US Open il y a 4 mois. Elle a donc été battue par la 72e joueuse mondiale en 2h et 13 minutes.
Enfin, dans la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Spurs de San Antonio ont renoué avec la victoire sur leur parquet et dominé Toronto 110-82. Philadelphie a décroché sa deuxième victoire consécutive en battant Minnesota 93-91. Détroit a été battu par les Indiana Pacers 121-116 grâce notamment à 32 points de Paul George. Enfin, Dallas a battu Washington 113-105.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux d'être en votre compagnie, Anastasie Tudiach et Gaby Dorsil, place au dossier du jour, première escale, N'Djamena.
Au Tchad, la plateforme revendicative syndicale exige l'annulation du décret portant réduction des indemnités de 50%, le retrait de la loi 08 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans les secteurs publics adopté le 30 décembre 2016 par l'Assemblée nationale. Devant le refus sans explication du gouvernement d'ouvrir le dialogue, les syndicalistes suspendent le service minimum instauré le 19 décembre dernier. Nathalie Barge a joint Michel Barka, président de l'Union syndicale du Tchad.
Depuis que nous avons déclenché la grève pour revendiquer les arriérés de salaire, le gouvernement nous a soumis à une série de répressions. La dernière mesure qui a été prise, c'est la modification de la loi, la réglementation des droits de grève au Tchad. Cette loi, d'ailleurs, qui est très dure, qui est antisociale, et a ajouté encore certaines dispositions tout à fait contraires aux normes internationales, à Convention 87, je vais dire, de droit syndical. Ce durcissement a poussé les travailleurs, eux aussi, à reculer parce que le gouvernement a lui-même lancé un appel à la reprise du travail contre toute la volonté des dirigeants syndicaux. Et les travailleurs n'ont pas répondu à son appel.
Est-ce que le gouvernement a réglé les salaires du mois de décembre comme promis?
Non, malheureusement, à ma connaissance, non. Ils ont lancé, comme effet d'annonce le plus souvent, vers la fin de l'année, qu'ils allaient payer le salaire de décembre pour que les gens puissent reprendre le travail de toi, mais personne ne m'a confirmé le paiement de ce salaire.
Où en êtes-vous dans les discussions? Est-ce que le gouvernement accepte d'écouter vos propositions ou pas?
Malheureusement, non, puisque le gouvernement ne dialogue pas. Vous savez que pour commencer à dialoguer avec nous, il a fallu attendre 2 mois. Et c'est seulement ces derniers temps, dit-il, pour sauver l'année scolaire et pour que les administrations reprennent. Il a commencé à faire un semblant de dialogue, mais qui en réalité n'a rien donné. Ce qu'il sait faire le mieux, c'est de prendre des mesures pour mieux nous frapper. C'est tout.
Est-ce que vous avez pu parler éventuellement au ministre de la fonction publique?
Non. Le gouvernement, quand il a arrêté de dialoguer avec nous, il a déposé la loi, l'amendement de la loi sur la restriction de la grève au niveau de l'Assemblée. Et depuis ce jour-là, il a fait des sorties médiatiques qui doivent intimider les travailleurs. Il n'y avait pas un autre langage que celui-là. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas repris la langue.
Et combien y a-t-il d'arriérés de salaire, hein? Combien de mois?
En fait, nous sommes arrivés au mois de décembre, et on a un mois de frais de déplacement qui ne sont pas payés. Mais il faut savoir qu'il y a les arriérés de pension qui ne sont pas encore payés. Il y a les suivis de maîtres communautaires qui ne sont pas encore payés. Et alors, pour les maîtres communautaires, ça fait 30 mois. Et j'ajoute à cela les bourses des étudiants qu'il faut considérer ici parce que les travailleurs du supérieur ne vont pas reprendre tant que les étudiants ne sont pas payés. Donc, en fait, c'est un tout petit effort que le gouvernement a fait parce que le reste, c'est encore gros et il est loin de le faire.
Nous avons contacté le gouvernement tchadien qui n'a pas répondu jusqu'à notre demande à ce jour.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Cap sur Haïti, où le Conseil électoral provisoire, le CEP, a confirmé hier la victoire de Jovenel Moïse au premier tour de la présidentielle, le 20 novembre, avec 55,60% des suffrages. Moïse hérite d'un pays profondément touché par les catastrophes naturelles, une épidémie de choléra importée par des casques bleus népalais, une pauvreté extrême et une forte polarisation sociale et politique. Jovenel Moïse a donc du pain sur la planche. Pour en parler, Éric Manerakiza, adjoint à Port-au-Prince, le conseiller stratégique du président élu Guichard Doré.
Effectivement, Jovenel Moïse, il a fait un discours à l'Assemblée. Dans ce discours, il a demandé aux différentes forces de la nation, les élites politiques, économiques, sociales, etc., et de se joindre à lui pour travailler pour le bonheur du peuple haïtien, pour le développement économique et social du pays.
Est-ce que le président élu, c'est quelqu'un qui va travailler en toute indépendance? Parce qu'il y a beaucoup qui s'interrogent si l'ombre de Martelly ne va pas planer sur la nouvelle administration.
Le président Jovenel Moïse, c'est lui qui a été aux élections. Effectivement, il a été élu sous la bannière du PHTK, le parti formé par l'ancien président Martelly. Mais normalement, il n'y aura pas un gouvernement de doublure. C'est Jovenel Moïse qui a été aux élections. Donc la population l'a voté. Je crois qu'il a, d'ailleurs, il a déjà montré sa capacité à transcender sur certains problèmes, également sa capacité à montrer son leadership face aux problèmes du pays, face au destin de la nation. Donc je crois que c'est lui qui va diriger, pas d'autre à sa place.
Son élection a suscité beaucoup d'espoir en Haïti. Ça rappelle l'espoir suscité par l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide à l'époque, mais l'espoir qui s'est vite évaporé.
Bon, cet espoir, normalement, est nourri par l'engagement personnel de M. Jovenel Moïse. Vous savez que lui, il a fait quelque chose dans le secteur agricole. Il a vu ce qu'il a fait dans le Nord avec sa ferme agricole, une ferme moderne en Haïti, dans le domaine de l'agriculture. Donc, il pense que probablement, en arrivant au pouvoir, il peut également soutenir le secteur agricole pour qu'on puisse avoir d'autres projets pareils dans les différents départements du pays. Et l'espoir également, c'est un espoir, ben, il l'a dit lui-même, il a pris l'engagement d'organiser au début de son climat et les états généraux sectoriels de la nation pour qu'il puisse y avoir entre les différents pays des GEI, parce que le problème qui est en Haïti, c'est que vous avez les gens ne se communiquent pas. Donc avec les états généraux sectoriels de la nation, et les différentes forces de la nation vont se mettre ensemble pour dégager une perspective, je dirais, heureuse pour ce pays, parce que le pays, on a une délégation de 50% de la population à moins de 20 ans. On a des besoins énormes en termes de formation universitaire, formation en termes de formation professionnelle, l'enseignement technique, également l'emploi pour la jeunesse. Donc, il y a des besoins énormes. Donc, un seul individu, une seule personne ne peut pas tout faire. C'est pourquoi que Jovenel Moïse ouvre également sa main à d'autres forces de la population. Pourquoi? On voudrait avoir une équipe qui inclut les différentes forces vives de la... Toutes les compétences, toute l'intelligence, tous les talents d'Haïti doivent se mettre ensemble pour travailler pour que ce pays puisse aller mieux.
Le professeur Guichard Doré, conseiller de Jovenel Moïse, nous parlait de Port-au-Prince.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Rétrospective 2016 et perspective 2017 sur VOA Afrique. Aujourd'hui, le Mali et le Togo. Nous commencerons par le Mali. Une meilleure vision et gestion de la question migratoire, la paix et la stabilité dans tout le pays, la création d'entreprises locales pour fournir davantage d'emplois aux jeunes. Tels sont, entre autres, les souhaits des Maliens pour 2017. Certains sont optimistes, d'autres restent en revanche très pessimistes à cause de l'insécurité, du chômage et aussi du rapatriement des Maliens de l'extérieur, Kassim Traoré.
L'optimisme chez les Maliens est naturel. Malgré la difficulté du Mali, en ce début d'année 2017, certains Maliens veulent garder l'espoir.
Dramane Konaté, conseil pédagogique à la retraite. De point de vue perspective, bon, je pense que nous pouvons espérer, étant donné que nous sommes des fatalistes, nous sommes des religieux. En tout cas, moi, j'ai bon espoir. Le Mali doit faire face vraiment à la paix. Parce que jusqu'à présent, cette histoire de paix-là, la négociation jusqu'ici, là, ça trébuche.
La première grande activité de l'année 2017 au Mali, c'est le sommet Afrique-France. Il est source d'optimisme chez certains jeunes Maliens.
Moi, je suis Abdelaziz Traoré. Je suis optimiste puisque avec l'arrivée des investisseurs, nous pouvons espérer avec l'arrivée des usines qui vont combattre un peu le chômage. Pendant ce sommet, là aussi, la masse salariale devrait être augmentée également.
Moi, c'est Abdoulaye Samasekou. Je suis aide bibliothécaire à la Flash. Ce sommet-là, peut-être, ça va faire des changements avec multifonctionnel.
Cet optimisme n'est pas partagé par tous les jeunes. Pour certains, ce sommet vient augmenter la difficulté du pays.
Aujourd'hui, le pays est confronté à plusieurs problèmes qui dépassent nos autorités et dont la gestion dépasse même quelque part la communauté internationale. Parce que la position du Mali dans le Sahel est de telle que le terrorisme est très développé, notamment sur les un tiers du pays.
Pour le secrétaire à la communication du parti Jama, parti de la majorité présidentielle, le régime actuel n'a pas de perspective pour les Maliens. Moriba Dabou.
Imagine, quand ils sont venus, ils ont promis 1000 emplois. Aujourd'hui, ils en ont fait 5000 chômeurs. Avec l'accord de réadmission, on a eu des parents en France qui nous ont appelés, ben, qui vont être refoulés. Vous partez en Italie, il y a plus de 10 000 Maliens qui sont emprisonnés. En Espagne, ils sont plus de 23 000. Et en France, c'est plus de 25 000. Où est-ce qu'on va? Sincèrement, la meilleure façon de dire à ces gens non, c'est d'aller tout simplement voter contre les partis au pouvoir en 2018. C'est la seule solution.
L'emploi chez les jeunes peut être gage de paix avec l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue.
Moi, je me nomme Aïssata Diarra. Moi, je voudrais surtout que l'État fasse des projets pour les jeunes, pour les enfants surtout, qui sont dans la rue, qui sont orphelins, qui sont là sans famille, quoi. Et que l'État, disons, fasse un projet pour ces enfants-là.
Mon souhait le plus ardent est que la paix arrive enfin dans notre pays. Que tout ce qu'on a dit, sur ce qu'on a écrit sur les papiers, que ce soit une réalité. On sait que l'emploi des jeunes ne peut pas se faire sans la paix.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, retour sur la situation politique en République démocratique du Congo. Cette fois, c'est écrit noir sur blanc sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pouvoir et opposition vont co-gérer le pays durant la transition entre la fin du mandat de Joseph Kabila et l'élection de son successeur fin 2017. Quel chronogramme pour la mise en place de cet accord ? Cet accord et la Constitution vont-ils pouvoir fonctionner ? Quel partage du pouvoir ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Parlons maintenant de l'attente des Togolais pour 2017. Notre correspondante à Lomé, Kayilosson, s'est promenée dans les rues de la capitale togolaise.
Cache Patrick, écrivain indépendant. Pour l'année 2017, je souhaite que le pouvoir d'achat du Togolais augmente. Alors il faut que les salaires augmentent. Il faut que sur le plan social, qu'on n'ait plus à aller de grève en grève dans le secteur de l'enseignement, surtout aussi dans le secteur de la santé. Sur le plan politique, il faut qu'on aille véritablement vers une décentralisation. Il faut que les élections locales se tiennent. Il faut aussi qu'on fasse tout pour enrayer de nos habitudes la corruption et la mauvaise gouvernance.
Moi, c'est Paul Amozou.
Le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est l'émergence. Alors ce que je souhaite pour le Togo, c'est que le Togo émerge comme nous le disons et que nous puissions également être à la hauteur des autres pays africains et pourquoi pas à l'international.
Je suis Legesim Maliki. Je souhaite un bon développement à notre pays, surtout que ceux qui boulottent déjà pour leur salaire, qu'on les augmente. Je souhaite aussi la paix et la compréhension entre les partis politiques et toute la population.
Je suis Emmanuel Segadi, que 2017 soit une année de prospérité, de santé pour tous les Togolais. Et nous souhaitons également que le chef de l'État prenne à bras le corps les préoccupations de lutte contre la corruption, les préoccupations de la vie chère, les préoccupations des infrastructures hospitalières et routières, les préoccupations liées aux universitaires et les préoccupations également des enseignants.
Je suis Martin Gagnon-Messambiam. Pour la nouvelle année, spécialement, je demanderai à tous les Togolais d'avoir le cœur au Togo. Et pour nos dirigeants, je leur demanderai beaucoup plus d'avoir conscience que le développement s'impose et qu'il faut des mesures conciliantes. Tous les acteurs se réunissent pour le développement du pays.
En 2007, il faut que la politique du gouvernement s'oriente vers le bien-être et l'employabilité de la jeunesse togolaise. Et surtout, tout le plan éducationnel n'a qu'à revoir leur politique. Le Togo vit sans penser à l'éducation. Pour moi, le plus important, c'est de revoir le niveau de vie des Togolais, repenser leur politique.
Propos recueillis par Kayilosson.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Michel Joseph, à la console Wagner Roberts. Présentation, Chérubin Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.